Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Ntumba, Kamanga, la présentation.
Bonsoir. Nouveau rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch. Le pouvoir de Kinshasa accusé de museler l'opposition politique ces deux dernières années. Ce rapport a été publié ce mardi à Kinshasa. C'était lors d'un point de presse animé par Madame Anneke van Vondenberg, qui est parmi nos invités de ce soir, et les chercheuses seniors à la division Afrique de cette ONG internationale Human Rights Watch. Sur quoi cette ONG tente-t-elle son rapport? Comment favoriser l'ouverture de l'espace politique en RDC? C'est le thème unique de notre émission de ce soir. Nous recevons, comme annoncé, Mme Anneke van Vondenberg. Nous recevons aussi Robin Minafou, député national PPRD, et Thomas Loarka, député national du MLC, membre de l'opposition institutionnelle. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Nouveau rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch. Le pouvoir de Kinshasa accusé de museler l'opposition politique ces deux dernières années. Sur quoi cette ONG tente-t-elle son rapport? Ce rapport, je vous l'ai dit, vient d'être publié ce mardi à Kinshasa lors d'un point de presse animé par Madame Anneke van Vondenberg, la chercheuse senior à la division Afrique de Human Rights Watch, est avec nous dans cette émission comme invitée, mais c'est notre confrère Pierrot et la Belgique qui nous donne la substance de ce rapport.
Dans ce rapport de 96 pages, Human Rights Watch attribue aux forces de sécurité congolaises la mort d'environ 500 personnes et la détention de près de 1000 autres, dont beaucoup ont été torturés depuis les élections. Selon cette ONG, la répression brutale contre les opposants présumés a commencé pendant les élections de 2006 qui ont porté au pouvoir Joseph Kabila et elle s'est poursuivie jusqu'à ces jours. Ce rapport reprend tous les actes de torture, menaces et intimidations endurés par les opposants détenus dans différents lieux de détention de la capitale. Il contient également des témoignages et entretiens menés auprès de plus de 250 personnes d'août 2006 à juin 2008 en RDC, au Congo-Brazzaville, en Europe et aux États-Unis. Parmi ce témoignage figure une dizaine de conseillers et d'assistés politiques proches du président Joseph Kabila. Human Rights Watch dit avoir consulté aussi les sénateurs Jean-Pierre Bemba et ses associés politiques, les leaders des Bundes du Congo, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, les principaux sénateurs et députés, ainsi que les agences des Nations Unies et autres associations. Ce rapport révèle que plusieurs personnes arrêtées l'ont été soit parce qu'elles sont originaires de la province de l'Équateur, soit parce qu'elles sont proches de Jean-Pierre Bemba. Pour cette ONG internationale, les efforts pour construire un Congo démocratique sont étouffés non seulement par la rébellion, mais aussi par la répression menée par le gouvernement de Joseph Kabila.
Madame Anneke, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous confirmez ce résumé de votre rapport?
Tout à fait. Donc, c'est un rapport d'à peu près 100 pages. Donc, c'est difficile de le résumer dans quelques minutes. Mais tout à fait, les choses que nous avons documentées, c'est des choses graves. Qui donne vraiment une impression d'une répression politique ici à l'Ouest, et spécifiquement à Kinshasa et au Bas-Congo. J'ai travaillé beaucoup en RDC pendant plus de 10 ans maintenant, et je dois dire que c'est la première fois pour moi que j'avais documenté la torture de choc électrique. Donc ici, les choses que nous avons documentées sont graves, et si ça n'arrête pas, nous sommes peur qu'on n'arrive pas à une démocratie ici au Congo. Sans une opposition forte, sans une société civile qui peut parler, sans que les défenseurs des droits de l'homme peuvent parler, nous prenons une direction dangereuse.
Oui, mais quand vous parlez de 500 morts, 1000 détenus, vous avez des preuves?
Bon, bien sûr, nous sommes une organisation assez sérieuse. On avait parlé avec plus de 250 témoins, victimes, membres de famille et des autres fonctionnaires. Et ce rapport n'est pas basé sur quelques semaines de recherche, c'est basé sur plusieurs de mois de recherche. Nous avons parlé avec beaucoup de personnes. Je dois dire aussi que ce n'est pas la première fois que ça s'est dit. C'est aussi dit par exemple, la MONUC, qui eux-mêmes avaient documenté la répression au Bas-Congo. Bas-Congo, février 2007, Bas-Congo, mars 2008, où il y avait au moins 200 personnes tuées. Donc, nous ne sommes pas les premières qui le disent.
Voilà.
Comment on réagit? On va voir d'abord du côté du PRPRG. Je vous promets qu'on aura la réaction du porte-parole du gouvernement central dans cette émission. Mais d'abord avec Aubin Minakou. Bonsoir Aubin.
Bonsoir.
Aubin, comment vous avez accueilli ce rapport de Human Rights Watch au niveau du PPRD?
Je viens de prendre sommairement connaissance de ce rapport ou de son résumé. Mais à la lumière de ce que nous déclare Madame, je voudrais d'abord préciser que moi aussi, j'ai eu à travailler dans le domaine des droits de l'homme, collaborer avec Asado lorsque j'étais étudiant, conseiller juridique au ministère des droits humains en 1999. Donc nous avons lu de nombreux rapports émanant d'éminentes personnalités, notamment le rapporteur spécial Garreton. Et là, en lisant le résumé de ces rapports, directement je me rends compte qu'il est suffisamment biaisé. Lorsque l'on dit par exemple que les efforts pour construire un Congo démocratique sont étouffés, non seulement par la rébellion, mais aussi par la répression menée par le gouvernement de Kabila, je comprends ce qu'on poursuit déjà.
C'est quoi?
Chercher à salir coûte que coûte un gouvernement issu des élections face à une rébellion qui est en train réellement de perpétrer des crimes massifs en violation du droit international humanitaire. Et là, ce n'est pas crédible de la part d'une organisation gouvernementale. Je sais qu'il y a quand même des problèmes des droits de l'homme sur toute l'étendue de la République, comme au sein de tous les États africains, mais ceci à faire croire, parce que c'est ça la trame de ce rapport, faire croire que malgré les élections, il n'y a aucune avancée démocratique. Malgré les élections, il y a violation massive des droits de l'homme, il y a une volonté politique avérée de museler. Vous avez utilisé le verbe museler. Je me suis amusé à lire la définition de museler dans le dictionnaire. Ça signifie empêcher, entre parenthèses, un animal, d'opposition à un animal, d'ouvrir la gueule, de mordre en lui emprisonnant le museau, empêcher de parler, de s'exprimer, réduire au silence. Après des élections démocratiques, quelle est l'instance où l'on retrouve le véritable débat démocratique, politique? N'est-ce pas le Parlement?
Voilà. Est-ce que, on va essayer de vous suivre, vous terminez votre idée, parce que je voulais vous poser quand même une petite question pour savoir si finalement, vous dites que c'est une façon de chercher à salir le président Kabila. Est-ce que vous voulez dire par là que tout ce qui est dans le rapport de Human Rights Watch est faux?
Loin de là. Dans ce rapport, on fait notamment état des arrestations arbitraires, des actes de torture perpétrés par certains agents publics, c'est vrai. Mais il faut aller plus loin. Est-ce que ces actes de torture, ces arrestations, font partie d'une politique avérée gouvernementale? Est-ce que la justice n'a pas fait son travail? Je peux démontrer que chaque fois qu'il a été question des arrestations arbitraires, la justice a fait son travail dans un contexte nécessairement difficile, sûrement difficile, mais la justice a quand même essayé de faire son travail.
Voilà. D'abord, on va prendre Thomas Loaka. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous devez peut-être être le plus ravi, parce que là, c'est en faveur, hein, on peut le dire, du MLC par rapport de Human Rights Watch.
Non, je crois que c'est en faveur de la vérité. Nous commençons d'abord par féliciter Human Rights par la qualité du travail qui a été effectué, le sérieux qu'ils ont mis, parce que la plupart des thèses développées dans ces rapports, nous-mêmes, nous les dénoncions à son époque. Je vous donne quelques exemples parce que je crois que mon...
Et vous n'avez jamais parlé de 500 morts.
Non, peut-être les chiffres, on n'a jamais donné les chiffres globaux, mais les faits sont là. Et l'honorable Minakou commence un peu à vouloir politiser l'affaire. Non, loin de là. Je vous donne des faits précis. On est mardi aujourd'hui. Le secrétaire général du MLC, François Mwamba, est allé faire une tournée le week-end dernier dans le Bas-Congo. Il a demandé une garde à Kinshasa qui lui a été accordée, trois policiers. Il est arrivé à Matadi le samedi, il a fait sa manifestation. Le dimanche matin, la garde lui a été retirée. Ça, c'est ce week-end.
C'est vérifiable?
C'est vérifiable, vous pourrez vérifier. La garde lui a été retirée. Deuxième exemple, quand on parle de musellement, on misait l'opposition. Combien de fois nos chaînes de télévision proche du MLC n'ont pas été fermées. Tout le monde est au courant, ça, ce n'est pas Human Rights qui invente ça. Dernier exemple, toujours pour, dans le cadre des muselés, l'opposition. La permanence nationale du MLC a été occupée pendant plus d'un mois, occupée et pillée par la garde républicaine. Il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu de sanctions. Ce ne sont pas des choses qu'on invente.
Voilà. Nous revenons vers vous, Madame Anneke. Vous avez suivi. Là, évidemment, le MLC félicite votre travail, mais du côté de la famille politique, je dirais, présidentielle, le Peter Day, on dit que c'est, Aubin Minakou dit que c'est là une façon de salir le président Kabila, et en plus, dans le contexte, ça lui passe à la rébellion, ce qui fait ce que dénonce Aubin Minakou.
Bon, premièrement, je dois dire qu'on ne prend pas parti politique dans ce rapport. On a essayé de documenter bien qu'est-ce qui est arrivé. On ne prend pas une partie ni l'autre. On essaie de dire la vérité. C'est vrai qu'il y a une rébellion à l'Est. Et Human Rights Watch a beaucoup dénoncé les actes et les violations des droits de l'homme à l'Est. Et on va continuer de le faire. Mais nous pensons qu'on a deux problèmes dans ce pays. Une, c'est la rébellion à l'Est. Et on doit trouver une solution par rapport à ça. Les gens de Kiwanja, les gens de plusieurs d'autres endroits à l'Est ont beaucoup souffert et ce n'est pas correct que la rébellion de Laurent Nkunda et les autres groupes armés continuent à commettre des violations des droits de l'homme. Mais à la même fois, il y avait un manque d'attention sur ce qui se passe ici à l'Ouest. Et maintenant, c'est le moment vraiment de regarder. La communauté internationale était au courant. Plusieurs des personnes étaient au courant. On a vu les preuves ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Il y avait des corps dans le fleuve, mains ligotées, les scotches sur le bouche, les gens étaient mutilés. C'est absolument vrai. On a vu les faits. La seule chose que Human Rights Watch en a fait avec ce rapport, c'est de bien documenter tous les incidents différents. Et quand nous mettons tous les chiffres ensemble, c'est des chiffres horribles. C'est des chiffres extraordinaires. Comment c'est possible qu'après des élections, il y avait au moins 1000 personnes arrêtées au Bas-Congo et Kinshasa? Comment c'est possible qu'il y avait 500 morts? C'est des chiffres durs, je le sais. Je ne veux pas saluer le gouvernement, ça, ce n'est pas notre travail. Mais on avait vu que le président lui-même avait donné le temps et les directions pour ce type de répression. Et ça, c'est quelque chose que nous avons documenté.
Mais c'est quand même grave.
C'est grave, c'est vrai. Les choses que nous avons documentées, c'était que dans des réunions, le président a utilisé les mots « écrasé ».
Dans le nom de votre rapport, on va les écraser, vous dites que c'est venu du président de la République?
Exactement. Et que aussi, il a dit qu'on doit neutraliser les ennemis de la démocratie. Un État a le droit tout à fait de faire face à la violence contre les agents de l'État et autres choses. En fait, c'est leur devoir. Mais ils doivent le faire avec une force appropriée, avec tout le respect des droits humains. Ils peuvent arrêter des gens, mais ils ne peuvent pas le faire arbitrairement, ils ne peuvent pas les torturer et ils ne peuvent pas les tuer.
Madame, on va avoir la réaction du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, réagit justement à ce rapport de Human Rights Watch.
Je peux qualifier d'emblée d'un tissu d'approximation sans beaucoup de fondement parce qu'on ne donne aucun élément de preuve. On a l'impression qu'il y a une volonté manifeste de cette ONG que nous respections beaucoup pourtant jusqu'à présent de justifier une quête de financement pour continuer à travailler en République démocratique du Congo parce que s'il n'y a pas d'énonciation de faits graves, il n'y a probablement pas de sponsoring. Nous faire tomber du ciel des révélations de cette nature et surtout impliquer notre président, dont tout le monde connaît les motivations profondes au respect des droits de l'homme. Donc il ne faut pas nous faire croire ici que rien n'est fait, parce que ça pourra faire l'affaire d'une ONG qui voudrait avoir de l'argent. Notre peuple n'est pas là pour servir de vache à lait à certaines ONG.
Donc quand même, vous reconnaissez qu'il y a certaines choses qui se passent.
Mais bien sûr que nous reconnaissons, mais nous disons en même temps que nous gérons ce qui se passe. Et en tout état de cause, ce qui se dit ici a été délibérément exagéré pour trouver de financement pour cette ONG.
Voilà. Je vais vous donner le temps de réagir, Madame Anneke van Lindenberg, parce qu'il y a des réactions aussi qui viennent des auditeurs. Je prends un Mombi Imi d'Issirou en province orientale. Il pense que votre rapport est un nouveau stratagème des Occidentaux pour noyer le régime Kabila. Il pense à la DAS qui veut noyer son sien, la crise de rage. Même avis de la part de Mawa et de Bounia. Qu'est-ce que vous répondez très rapidement?
Bon, je trouve un peu cette réponse très triste parce que je ne suis pas là pour chercher le financement, pour chercher le sponsoring. Ça, ce n'est pas le travail de Human Rights Watch. Je voudrais bien que je n'ai pas de travail ici au Congo, franchement. Je peux faire autre chose et je voudrais bien le faire. Human Rights Watch est une organisation sérieuse. On a basé ça sur des bonnes enquêtes approfondies. On n'a pas basé ça parce que nous cherchons l'argent. Ça, ce n'est pas notre domaine, ce n'est pas les choses que nous allons faire. Je suis d'accord que le président Kabila avait bien dit qu'il voudrait bien un état de droit ici au Congo. Nous voulons la même chose. Et nous demandons aujourd'hui que le président prenne ça à main, qui dit on arrête avec ces arrestations arbitraires, avec les tortures, avec les tueries, qu'on y va à un état de droit. Et les personnes nommées dans notre rapport qui sont responsables pour ça doivent être traduites en justice. Et on demande ça au président aujourd'hui qu'il peut prendre les choses, qu'il peut prendre les décisions pour assurer ça.
Bon. Qu'est-ce que vous apprenez, oui, Robin, je reviens vers vous, mais Thomas Loaka, d'abord par rapport aux preuves. La mère Mende dit qu'il n'y a pas suffisamment de preuves dans le rapport de Human Rights Watch.
Non, moi, je donne des faits qui sont là, qui sont vérifiables. Nous avons, vous le savez très bien, pour donner un autre exemple, parce que j'ai l'impression que le ministre a besoin de plus de preuves. Le colonel Samba, un ancien cadre du MLC, au moment où on parle, il est arrêté. Sa femme aussi qui est allée lui donner à manger, sa femme a été arrêtée et libérée il y a 2 jours. L'épouse qui n'était pas impliquée dans ce qu'on reproche au colonel. Je ne parle pas du cas Moukia qui aujourd'hui est en prison. Est-ce que ça, c'est des choses que l'humain va inventer? Donc, les preuves sont là. J'ai retenu quelque chose dans le discours du ministre. Quand il dit exagéré, c'est-à-dire qu'il reconnaît quand même qu'il y a un fondement. Même s'il considère qu'il est exagéré. Mais nous qui sommes dans l'opposition, nous qui vivons, nous sommes en contact avec les victimes qui viennent nous voir tous les jours. Je vous dis, c'est incroyable. Le nombre de membres des familles qui viennent chaque jour nous dit que mon mari a été enlevé, mon mari est forcé disparu. Je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup de cas qui se passent ici, dans la ville de
Mais que vous n'avez pas dénoncé.
On a dénoncé, on a fait plusieurs communiqués. On a fait plusieurs, que vous n'avez pas fait attention, parce qu'à force de dire les mêmes choses, à la fois les gens ne suivent plus. On a tout dénoncé, on a dénoncé les arrestations arbitraires. Donc, ça continue.
Merci. Je pense que c'est tout à fait normal. Ça rentre dans les prérogatives d'une ONG internationale des droits de l'homme de dénoncer, de faire le monitoring des droits de l'homme. Mais là où ça devient anormal, suspect et même politicien, c'est lorsque l'on fait des affirmations, en tout cas là, sur le plan politique. Je donne quelques exemples. Les efforts pour construire un Congo démocratique sont étouffés, non seulement par la rébellion, mais aussi par la répression armée par le gouvernement.
Donc, on reconnaît quand même qu'il y a des choses à reprocher aussi à la rébellion.
Deuxièmement, une contre-vérité que j'ai décelée quelque part. Je cite ce rapport, ou le résumé du rapport. Les autorités congolaises ont refusé de reconnaître les exactions commises par des agents de l'État en dépit des demandes de l'Assemblée nationale, des médias et d'autres citoyens ou groupes. Quand on lit cette phrase, c'est comme si l'Assemblée nationale avait demandé au gouvernement de reconnaître les exactions. Et pourtant, l'Assemblée nationale avait demandé plutôt que le gouvernement puisse mettre en branle les mécanismes judiciaires pour réprimer ceux qui ont perpétré des infractions.
Est-ce que ça a été
C'est de cette manière-là qu'un état de droit fonctionne.
Est-ce que ça a été fait, Robin Minako?
Est-ce que ça a été fait? Si ça n'a pas été fait complètement, je sais qu'au Bas-Congo, par exemple, la justice a fait son travail. Il y a des condamnés. Mais si ça n'a pas été fait complètement, chaque institution, au sortir des élections, a des prérogatives constitutionnelles. Et l'Assemblée, ses prérogatives, c'est contrôler le gouvernement quant à la gestion de l'État. Excusez-moi. Une autre contre-vérité. Le peuple congolais mérite un gouvernement qui soutienne ses droits démocratiques et non un gouvernement qui réprime les opposants. S'il vous plaît, ça c'est une affirmation politique, politicienne, c'est grave. Nous sommes sortis des élections. Qui peut dire que l'Assemblée nationale, le Sénat congolais ne fonctionne pas comme ses doigts? Qui peut aujourd'hui dire que les députés, les sénateurs de l'opposition n'ont pas le droit de s'exprimer au sein de ces institutions? Pas du tout. C'est grave. Pareille affirmation. Je relis. Le peuple congolais ne mérite pas un gouvernement qui soutienne ses droits démocratiques et non un gouvernement qui réprime les opposants. L'Assemblée nationale n'a-t-elle pas adopté une loi sous le statut de l'opposition. C'est passé au Sénat. Et aujourd'hui, la majorité laisse l'opposition libre pour arriver à désigner le porte-parole de l'opposition.
Qui n'est encore connu.
N'est-ce pas, un processus démocratique peut-être laborieux au sortir d'une guerre parce que nous sommes un État dans une situation post-conflictuelle.
Voilà.
Ces trois exemples que j'ai soulevés à la volée, parce que je viens à peine d'avoir ce texte,
Vous dites c'est
démontrent quelle est la motivation de ce travail.
Donc c'est trop politique.
Mais en tant que... Parce que l'ONG n'a pas le monopole de la défense des droits de l'homme. Nous aussi, foncièrement, c'est bon de faire le monitoring, c'est bon de faire la promotion des droits de l'homme, c'est bon de dénoncer les cas. Mais je crois qu'il faut présenter la situation de façon objective. Et les dénonciations qui ont été relevées ici et là ont fait l'objet des actions judiciaires.
Merci, Aubin Minako. Oui, Thomas Loaka.
Oui, la préoccupation, vous savez, comme il a dit, nous sommes en Afrique, les violations des droits de l'homme, on en connaît à gauche, à droite. Ça peut être vrai. Mais ce qui nous préoccupe, c'est quoi? Y a-t-il réellement volonté politique dans la majorité actuelle de réprimer les violations des droits de l'homme? Nous sommes préoccupés. Nous pensons que ça n'existe pas. Je me réfère à quoi? Le chef de l'État, puisqu'il a été cité dans les rapports, il fait un point de presse le lendemain des événements du mois de mars. Un journaliste lui pose la question sur les exactions commises par les forces de l'ordre, les militaires.
Là, on parlait de l'affaire Bemba et
Zedek. Pendant ces événements, nous, on croyait que le chef de l'État, républicain, défendeur des droits de l'homme, il avait dit que nous ne pouvons pas accepter cela. Nous allons sanctionner sévèrement. Qu'est-ce que le chef de l'État a répondu? Tout le monde a suivi. Même l'armée américaine commet des exactions en Irak et en Afghanistan. Ça veut dire quoi? Ça ne nous rassure pas du tout.
Voilà. On va poursuivre cette émission. Je vous rappelle, nouveau rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch. Le pouvoir de Kinshasa accusé de museler l'opposition politique ces deux dernières années. Comment favoriser l'ouverture de l'espace politique en RDC? Ne quittez pas. On en parle juste après ce rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 56 78 ou encore par SMS au 081 05 15 758.
À la suite du nouveau rapport de l'ONG International Human Rights Watch, comment favoriser l'ouverture de l'espace politique en RDC? À l'UDPS, parti fier à Étienne Tshisekedi, on pense que le respect des droits de liberté d'opinion et d'association est le préalable à l'amélioration de l'ouverture de l'espace politique congolais. Le porte-parole de l'UDPS, Ali Rissa, suivant au téléphone par Guy Maté.
Pour améliorer l'espace politique en République démocratique du Congo, il faudra d'abord respecter les droits de liberté d'opinion et d'association. Pourquoi nous disons cela à l'UDPS? Lorsque ces droits ne sont pas respectés, et je crois que votre radio Kati vient de vivre un des cas les plus malheureux et les plus cinglants, à l'assassinat de votre journaliste à la personne de M. Didas Namuzimbo, lorsque ces droits ne sont pas respectés, il est normal que l'espace politique se rétrécisse. Vous vous souvenez que notre parti, l'UDPS, a eu à connaître plusieurs brimades, plusieurs répressions, plusieurs emprisonnements délibérés. Seulement parce que dans la non-violence, l'UDPS a toujours tenu à présenter et à poser le problème du Congolais dans le respect des droits et des libertés des citoyens.
Madame Manique.
Oui, alors je suis un peu surpris quand l'honorable Minako voudrait dire que nous avons politisé ce rapport, parce que ça, ce n'est pas le cas. Une démocratie ne marche pas sans un état de droit, sans une contrebalance de le pouvoir exécutif. Ça, c'est fondamental de toute démocratie. Et je voudrais demander quelle justice était faite au Bas-Congo. Quels gens étaient arrêtés pour les gens qui étaient tués en février 2007? De le côté du gouvernement. On avait 104 morts. Quelle justice était faite en mars 2008 quand il y avait plus de 200 personnes tuées encore au Bas-Congo? Qui était arrêté? Moi, je ne vois pas des gens du côté du gouvernement qui étaient arrêtés. On a la même chose pour les événements de mars 2007. Nous tous, nous savons, et on avait documenté dans notre rapport, que les gardes républicains avaient arrêté des centaines de personnes. La plupart étaient amenés au Kanchatchi, ils étaient torturés et détenus au Kanchatchi. Les gardes républicains n'ont pas le droit d'arrêter des citoyens. Ça, ce n'est pas leur travail, mais ils avaient arrêté des centaines de personnes. Ils avaient tué au moins 150 personnes.
montrer où était la
vie. Vous avez des preuves.
On avait parlé avec plusieurs des témoins et c'est absolument clair qu'il y avait des corps qui étaient trouvés dans la fleuve. Donc, quelle justice était faite? Si on n'a pas la justice, si on n'a pas un état de droit, on ne prend pas une bonne direction pour le Congo. Et c'est ça que nous voulons dire ici. Ça, c'est ce type de répression a diminué l'espace politique. On ne voit pas une ouverture de l'espace politique ici au Congo depuis les élections. Des millions de Congolais et Congolaises ont voté pendant les élections. Ils avaient l'espoir que les choses peuvent changer. Nous tous, nous voulons que ça change.
Donc, vous avez l'impression que les choses n'ont pas changé.
J'ai l'impression que les choses ne changent pas assez vite et qu'on prend une direction très dangereuse.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, nous pensons que premièrement, une enquête faite par l'Assemblée nationale sur tous ces types de répression, les actes faits par les agents de l'État et les agents de renseignement. Je pense que ça, c'est la première chose qui doit être faite. On cherche la justice. Deuxième chose, je pense que le nouveau gouvernement, avec le nouveau ministre de la Justice, doit mettre en place une groupe de travail pour bien regarder toutes les détentions arbitraires, pour libérer des personnes qui sont toujours en prison sans jugement, sans procès, pour regarder les cas de torture, parce que le Congo a signé la convention contre la torture. C'est important que ça soit appliqué. Nous demandons au nouveau ministre de la Justice, qui est un grand professeur de droit, que lui prenne ses amens, qu'il mette en place cette groupe de travail pour bien regarder ça. Nous demandons ces deux choses et plusieurs d'autres aussi, mais ça, c'est les deux priorités.
Ok, on va revenir, hein, Aubin Minakou, pour réagir à ces propositions de Mme Anneke Van Vullenberg. Mais Thomas Loaka, il y a un auditeur qui nous a écrit, Blaise Osongo de Kananga. Lui dit que l'opposition n'a plus rien à craindre. Un cadre lui est déjà tracé avec l'adoption de la loi sur le statut de l'opposition. Alors, est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce qu'on ne peut pas dire que, finalement, vous pouvez mieux vous exprimer?
Non, il y a ce que les droits formels qui nous sont reconnus par les statuts de l'opposition, mais les droits formels aussi qui nous sont reconnus par la Constitution. Ce n'est pas si les droits reconnus à l'opposition et à toute la population, la liberté d'opinion, d'expression d'opinion, la liberté d'association reconnue par la Constitution, si cela n'est pas respecté, ce n'est pas une simple loi qui va nous garantir que cela va se passer. Non, ça ne suffit pas. Ce que nous voulons, si vraiment nous voulons aller de l'avant, il faudrait d'abord que la majorité actuelle, que le gouvernement reconnaissent qu'il y a des problèmes et qu'ils ont la volonté de tout faire pour nous amener vers l'avant. Mais lorsqu'on commence même à nier les évidences, ça nous préoccupe, nous sommes inquiets. Ça veut dire qu'il n'y a pas volonté d'aller de l'avant. La situation s'est dégradée par rapport sur les droits de l'homme. Mm. Par rapport, lorsque Mme Anneck dit que la situation n'a pas beaucoup changé. Non, elle a changé, mais dans le mauvais sens. Pendant la transition et actuellement, la situation s'est dégradée. Même dans l'opposition, nous sommes en train de gérer un parti politique. Il y a des cadres qui ont peur maintenant de parler. À la télé, ils disent, oui, on va m'intimider, on va m'arrêter. Dernièrement, quelqu'un est passé à la télé, on est allé arrêter les caméramans et les journalistes qui ont fait l'émission. Ça, c'est de notoriété publique. Donc, il faut d'abord que le gouvernement reconnaisse, au lieu de commencer à dire que non, c'est motivé par des recherches de fonds, ça ne tient pas debout. Reconnaissez la vérité, nous avons des soucis. Est-ce que ce qui se passe au niveau des agents de l'État et des fonctionnaires de l'État ressort-il des instructions de la hiérarchie? Pour que nous nous soyons rassurés qu'il n'y a pas d'instruction, il faudrait que les autorités politiques dénoncent cela.
Oui, justement, c'est pourquoi Mme Anneke propose justement que le gouvernement soit un peu plus regardant pour corriger tout ce qu'il y a comme erreur, hein, au niveau de la détention, de la justice. Mais elle propose aussi une enquête du Parlement. Qu'est-ce que vous en dites?
Non, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais je pense que s'il n'y a pas volonté politique au niveau du gouvernement, ça ne nous mènera à rien. Je vous donne un exemple. C'est le Bas-Congo. Et une enquête du Parlement. On a mené une enquête, on a fait des recommandations. Jusqu'aujourd'hui, qui sont en prison? C'est les BDK. N'y a-t-il pas eu des exactions de la part des forces de l'ordre? Tout le monde l'a reconnu. L'emploi de la force a été disproportionné. Quel est ce commandant qui a été arrêté? Mais pour qu'interpeller? Pour pouvoir s'expliquer? Personne. Donc l'impunité, tant que l'impunité sera garantie, ça va continuer, la situation va dégénérer.
Aubin Minakou, il y a un auditeur anonyme qui nous suit. Lui, il pense que le Parlement est le seul lieu où les députés de l'opposition peuvent s'exprimer. En dehors de celui-ci, ils sont arrêtés ou menacés lorsqu'ils font des déclarations dans certaines chaînes de télévision et radio de la place.
Merci beaucoup. Je crois que
Nous pouvons essayer de voir, il y a une semaine, il y a deux semaines, combien de députés de l'opposition ont fait le tour des différentes radios et télévisions et combien ont été arrêtés. Je crois qu'il y a déclaration, mais il y a aussi vérité.
Ça s'appelle quand même de Roger Lumbala.
Je me répète.
Ça, vous reconnaissez?
Oui, je reconnais, mais il y a aussi des infractions de droit commun qui peuvent être perpétrées et par des citoyens simples, et par des députés, et par des opérateurs politiques.
Et là, c'est la justice.
Et là, le travail revient à la justice. J'aimerais d'abord dire ceci. Lorsqu'on fait état des 150 assassinés par la garde républicaine et jetés dans le fleuve, quelle affirmation grave. Il faudrait d'abord rappeler quel est le contexte de mars. Le contexte de mars, c'est celui des troubles intérieurs. C'est celui d'une bataille entre les forces loyalistes et la garde d'un vice-président de la République, constitué de centaines de militaires. Et à l'occasion de cette bataille, il semble que les forces loyalistes ont utilisé la force de façon disproportionnée. Et à cette occasion, il y a eu plusieurs morts de part et d'autre. Ne pas rappeler ce contexte, c'est dangereux. C'est donner l'impression que la garde républicaine, les militaires congolais, peuvent de façon délibérée prendre 150 militaires, tous qui sont rattachés à tel opérateur politique, et les tuer. Ce n'est pas honnête. Deuxièmement, je voudrais relever un autre élément lorsqu'on parle, par exemple, de Bundu Dia Congo. Bundu Dia Congo, c'est le même contexte. C'est le même contexte. Évidemment, il y a eu quelques dérapages reconnus par les autorités gouvernementales.
Mais il n'y a pas d'agents de l'ordre.
Il y a eu des dérapages, et je vous assure qu'il y a des agents de l'ordre qui ont été sanctionnés sous le plan disciplinaire.
Pas arrêté, au
sous le plan judiciaire, je ne saurais le préciser. Lorsque l'on évoque un bout de phrase qui serait sorti d'un chef de l'État, à la légère, il a dit, Joseph Kabila a dit, même l'armée américaine commet des exactions. C'est d'abord vrai. Mais il faut remettre ça dans un contexte. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, sort d'un des troubles intérieurs, une quasi-rébellion. On lui pose une question. Même s'il aurait dit que l'armée américaine commet aussi des exactions, ça ne signifie pas qu'il n'a pas pris des dispositions après pour rétablir l'ordre public, pour réprimer les infracteurs. Ça a été fait. Et ne pas l'évoquer dans un rapport signifie avoir une démarche politicienne. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que je considère ce rapport, malheureusement, comme un instrument à la merci des opérateurs politiques. Et ce n'est pas correct de la part du ONG.
Oui, et pour revenir très rapidement, parce que là, vous avez plus de temps que tout le monde, pour revenir très rapidement, parce qu'il faut qu'on évolue
c'est
un peu.
C'est normal que j'ai plus de temps, parce que vous comprenez.
Vous voulez dire que vous êtes deux contre un.
Voilà.
Bon, alors, ça fait rire les autres invités. pour avoir un peu plus d'ouverture dans l'espace politique, peut-être améliorer les choses. Il y a eu des propositions de Mme Aneke. J'aimerais avoir aussi votre réaction là-dessus. C'est-à-dire, la meilleure façon peut-être de démentir le rapport de Human Rights Watch serait peut-être une enquête de vous-même, parlementaire.
Les propositions, fort heureusement, sont objectives, parce que c'est des propositions qui respectent l'ordonnancement constitutionnel de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale doit s'assumer, et elle s'assume bien, son président, Vital Kamerhe, si l'Assemblée nationale, en toute souveraineté, estime qu'il faut une enquête, c'est bien. Je crois que c'est une proposition objective. Le ministre de la Justice, le professeur Louzolet, que je connais aussi très bien, je crois qu'il peut aussi donner une nouvelle impulsion au niveau du ministère dans le cadre de la lutte contre l'impunité, contre la corruption, et je crois que c'est une proposition que je partage. Cependant, je me rends compte que l'atterrissage, bien que objectif, quelque peu altéré par des considérations, en tout cas, qu'on ne peut pas accepter au niveau des prémices.
Non, vous permettez, c'est politicien.
Oui.
Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire si vraiment nous sommes animés de la volonté d'aller de l'avant pour l'avènement d'un état de droit. La première des choses, il faudrait condamner, je l'ai dit, il faut que les autorités politiques condamnent les violations des droits de l'homme. Deuxième chose, il faudrait... Deuxième chose, il faudrait libérer les gens qui sont détenus illégalement. Au moment où nous parlons, vous savez, après les événements de mars, la garde de Jean-Pierre Bemba. On a proposé aux hommes de Jean-Pierre Bemba qui étaient à la Monique
on dit soit vous retournez dans la vie civile, soit vous allez au brassage à Kamina. Mais au moment où nous parlons, 83 de ces éléments qui étaient à la Monique sont à Makala. Ils peuvent, honorable Nina, couper la vérité demain, ils sont emprisonnés à Makala. Donc il faudrait libérer. Troisième chose, il faudrait commencer maintenant à sanctionner celui qui procède à une arrestation arbitraire. Les rapporteurs de la commission, la haute autorité des médias, M. Imana Engoulou, pour un banal accident de la route, a été appréhendé, détenu pendant plusieurs jours dans les services spéciaux de la police. Lorsque nous avons fait un communiqué, nous avons rendu cela public, il a été libéré. Mais aucune autorité ne s'est jamais posé la question de savoir qui a procédé à cette arrestation arbitraire. Donc il faudrait maintenant commencer à sanctionner. Sinon ça va continuer comme ça. Et dernière chose, il faudrait procéder à l'ouverture de l'espace médiatique à toute l'opposition. L'honorable Minaku parle de le Parlement. C'est un îlot de démocratie. C'est un îlot. Il y a un petit débat à la télévision au niveau de l'Assemblée nationale.
Vous voulez dire que ça s'arrête là?
Ça s'arrête là. La plus grande scène de la République,
la RTNC,
n'est pas ouverte à l'opposition. Vous suivez la RTNC, chaque jour, vous allez voir que les activités des partis politiques, dès la majorité, même si nous payons nos droits de passage, nous ne devons pas passer. Mais il faudrait commencer à libérer l'espace médiatique. Il faudrait commencer à respecter les droits constitutionnels. Si cette volonté n'existe pas, on peut aujourd'hui dénier, dire que c'est un souci de cela, de cela. La réalité va continuer à nous poursuivre. Les droits de l'homme vont être violés, continuer à être violés, et la situation va se dégrader. Le semblant de démocratie que nous avons aujourd'hui, parce que la patience n'est pas, comment dire ça, éternelle. Certains pourront dire, on arrête de jouer les jeux. On passe à autre chose, et ça c'est dangereux. Nous ne le souhaitons pas.
Et qu'est-ce que vous n'allez pas le faire?
Nous ne le ferons pas.
Alors, on passe à Berli Saeka pour les réactions des auditeurs. Bonsoir Berli.
Bonsoir Jean-Claude. Jonathan Diamongo de Bukavu pense qu'il n'y a jamais eu d'opposition au Congo. Sinon, ils auraient tous démissionné au Parlement et au Sénat à cause de la guerre à l'Est. Pour Rodrigue Egenza de Bougenena, la démocratie congolaise n'a rien de concret. Les opposants comme les tenants du pouvoir appartiennent tous au monde sombre de la politique. Robert Baume de Bukavu voudrait savoir comment le pouvoir en RDC muselle-t-il l'opposition et quelle stratégie cette dernière doit-elle utiliser pour qu'elle ne soit plus muselée. Et enfin, Sengi Durunga de Bunia, au lieu que l'ONG internationale nous fasse le rapport de la terreur qui est féconde à l'est du pays, elle se pense plutôt là où la paix semble régner.
Merci beaucoup, Berli Saeka. Peut-être on va commencer avec vous, Madame Anneke Van Vundenberg, voilà, chercheuse senior de Human Rights Watch, pour répondre directement à Sengi Durunga de Bunia, qui attendait plutôt un rapport sur Kunda à l'Est.
Bon, dans ce cas, je peux lui dire qu'il peut aller dans notre site internet parce que nous avons publié beaucoup de rapports sur la situation à l'Est et aussi beaucoup de rapports sur l'Ituri. Et je suis d'accord, on doit continuer de dénoncer ces violations des droits de l'homme à l'Est et on va continuer de le faire. Mais aujourd'hui, c'est une question de l'Ouest. Et là aussi, nous ne sommes pas seulement l'organisation qui regarde l'Est. Le Congo est quand même un pays. Et je voudrais juste répondre à quelque chose qui a été dit premièrement par l'honorable Minaku. Parce que je pense que on avait aussi, dans notre rapport, documenté des violations des droits de l'homme faites par les BDK, le Bundesia Congo, et aussi par les gardes proches de Jean-Pierre Bemba. Mais pour toutes ces arrestations, pour toutes ces autres choses qui étaient faites, s'il y a des faits, s'il y a des preuves, on doit traduire ces gens en justice. S'il y a un état de droit, il y a un procès qui doit être fait. Donc, nous savons les choses qui doivent être faites. Mais dans le droit du Congo, dans la Constitution, les services de sécurité n'ont pas le droit d'arrêter arbitrairement, ils n'ont pas le droit de torturer, ils n'ont pas le droit de tuer. Et ça, c'est les faits. On n'a pas documenté ça pour faire des choses politiques, on dit seulement les faits que nous avons trouvés sur terrain. Donc si nous voulons un état de droit, on doit arrêter ces violations graves.
Voilà, il faut arrêter ces violations graves. Thomas Loarka et à Jonathan Biamungu, lui pense qu'il n'y a jamais eu d'opposition, sinon ils auraient tous démissionné du Parlement et du Sénat à cause de la guerre à l'Est. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Donc, dès qu'il y a une petite rébellion qui commence quelque part, les institutions tombent. C'est ça la logique que je ne partage pas tout à fait. D'ailleurs, je ne comprends pas les raisonnements. Dès qu'il y a des troubles dans un coin de la République, les membres des institutions démissionnent. Justement, nous sommes là pour essayer de trouver des pistes de solution à ces problèmes. Lorsque nous démissionnons, qui va apporter la solution à ces problèmes-là?
Et de façon globale, lorsque vous regardez finalement la démocratie sous Joseph Kabila, qu'est-ce que vous pouvez dire de bon et de mauvais?
De bon et de mauvais, c'est Joseph Kabila, l'histoire retiendra de Joseph Kabila, que c'est l'un des rares dirigeants congolais qui a pris le risque, en étant au pouvoir, d'aller aux élections démocratiques. Depuis l'indépendance, personne n'a jamais osé aller remettre son fauteuil en cause. Il a pris ce risque et nous lui serons éternellement reconnaissants. Il faut dire maintenant que pendant son règne, depuis son élection, l'impunité règne, contrairement à ce qui a été dit et fini la récréation, l'impunité continue, la corruption est en train de gangréner le système et l'insécurité est en train de se propager à l'Est. Ça, c'est vraiment dans le bilan, le côté négatif. Si nous nous sommes redevables sur l'avènement des élections démocratiques, les chefs de l'État devraient fournir des efforts dans ces autres secteurs, la corruption, l'impunité, l'insécurité.
Voilà. Robin Minakou, vous êtes député PPRD. Si vous faites un regard, parce qu'en fait, le rapport de Human Rights Watch a tablé sur les deux ans du règne de Joseph Kabila comme président élu, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Thomas Loaka sur, déjà, en saluant le président Kabila qui a su remettre son fauteuil en jeu, et puis l'impunité, la corruption, l'insécurité qui le poursuivent?
Je comprends le beau rôle joué par le collègue Thomas Loaka, qui est un homme positif de toute manière, mais je dirais ceci. Premièrement, c'est clair, c'est le fait de nous avoir conduit aux élections. Mais au-delà des élections, quand je discute même avec les frères de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, l'on reconnaît qu'il est en train réellement d'aider à la cristallisation progressive de l'état de droit.
Parce que avec l'impunité, la corruption et les sécurités.
À l'instant, la cristallisation des principes sacro-saints de l'état de droit, notamment l'Assemblée nationale fonctionne comme il se doit, le Sénat fonctionne. Il y a des mécanismes normatifs institutionnels qui sont mis en place pour que nous ayons au Congo une justice réellement indépendante.
Et si vous devez donner un conseil, franchement.
Mais la crise congolaise est structurelle. Elle date d'il y a longtemps.
Ça sortant d'une guerre. Vous le dites souvent.
C'est souvent oublié en même temps. Oui. La crise étant structurelle, nous devons prendre des mesures structurelles qui appellent le temps, qui appelle la planification. Et de temps en temps, pour des raisons politiciennes ou autres, c'est de bonne guerre, je comprends nos amis de l'opposition, de temps en temps, on ne tient pas compte de ce fameux temps.
Et très rapidement, Aubin, parce qu'on est presque à la fin
du temps. Conseil.
Oui, à donner au président Kabila. Par rapport à ce qui est dit quand même sur l'impunité, la corruption.
Si j'ai un conseil à donner par rapport au débat d'aujourd'hui, je dirais, quels que soient les paragraphes inacceptables du rapport de l'ONG, International Human Rights Watch, nous devons retenir les conclusions qui tournent autour des principes clés d'un état de droit, c'est-à-dire lutter contre l'impunité, contre la corruption, faire fonctionner la justice.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Benila. On va terminer avec vous, Madame Anneke. Voilà, quelques secondes, des conseils à donner au gouvernement pour améliorer par rapport à votre rapport.
Ok, d'accord. Premièrement, certainement, cette commission d'enquête.
Vous en avez déjà parlé au niveau du Parlement.
Voilà, au niveau du Parlement. Oui. Je pense que ça, c'est très important. Si vous pensez que ce rapport honorable était politisé...
Là, vous parlez d'Aubin Minakou.
Oui, voilà. Faites des recherches, vous-même. Faites une enquête transparente, ouverte, avec les membres de la société civile dedans. Nous tous nous serons très contents. Mais aussi pour un autre conseil au président Kabila, s'il vous plaît, donnez des instructions claires que vous n'êtes pas là pour violer les droits de l'homme des Congolais, que vous êtes là pour vraiment établir un état de droit. Nous tous, nous sommes derrière le président s'il veut le faire.
Merci beaucoup, Madame Anneke. Merci à tous nos invités. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Guy Maté tenait la réalisation avec le concours de Piero Elamegi, Berli Chaika et notre stagiaire Karine Kaja. Qui nous écoutait aussi et c'est dans l'équipe. Merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine, Inch'Allah.
démocratie.